Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de running, de course à pied, de lifestyle sportif et de comment la course à pied change notre vie. Et justement aujourd'hui dans l'épisode du jour qui est le 50e épisode, c'est un épisode vraiment un petit peu particulier, donc vraiment là on va voir l'histoire d'une personne pour qui vraiment le running a changé sa vie, a changé vraiment le cours de sa vie et qui pourtant elle partait vraiment, elle n'était pas du tout sportive et vous allez voir qu'elle a couru 41 marathons, qu'elle a couru des ultras, qu'elle a parcouru le monde entier et que sa vie a vraiment été chamboulée et notamment elle parlera aussi beaucoup de la confiance que ça lui a apporté de courir, de faire du sport, de se lancer dans ses aventures parce que c'est vraiment nos aventures et elle sait les raconter vraiment avec un très 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 grand talent. Mon invité du jour c'est Cécile Bertin que vous avez souvent sûrement beaucoup croisé hein, droite à gauche un petit peu sur les réseaux sociaux, dans les magazines, notamment les magazines de running ou là des chroniques, mais ça peut être aussi des livres et vraiment c'était un épisode qui était vraiment 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 génial. Mais avant d'écouter cet épisode, je voudrais d'abord vous remercier les uns les autres pour votre écoute, pour votre soutien, pour les messages que vous m'envoyez, pour les commentaires, pour tout ce que vous faites et bien sûr aussi pour votre écoute. Merci à tous. Kilomètre 42 avait commencé comme un journal d'entraînement de ma préparation de mon premier marathon pour mes 42 ans, c'était pour ça qu'il s'appelle Kilomètre 42, KM 42, et donc là on est au 50e épisode, j'avais dit que je ne ferais qu'un marathon, et puis finalement je me suis inscrit sur un deuxième marathon, et vous savez que je suis toujours inscrit, je vous l'ai dit, hein, je suis inscrit pour le marathon d'Albi 2021, puisque notre dossard a été reporté, donc j'ai bien au programme de faire d'autres marathons, et peut-être même que l'exemple de Cécile Bertin pourrait m'encourager à en faire beaucoup plus. En attendant, je vois moi aussi l'évolution, que la place que prend petit à petit la course à pied dans ma vie, ce que ça est en train de changer, et vraiment, c'est aussi grâce à vous, c'est grâce à votre soutien. Alors je pense notamment à ceux qui donnent de l'argent par Patreon, je pense aussi à vous tous hein, qui écoutez les pubs désormais sur le podcast, mais aussi quand vous m'envoyez des messages, quand vous participez au groupe Facebook, mon compte Instagram, enfin vous voyez toutes ces petites attentions, tous les conseils que vous demandez, tous les messages, et puis bien entendu les centaines d'écoutes sur chaque épisode, hein. Il y a des épisodes qui ont eu des gros retours, hein. Je sais que certains ont réfléchi à des nouvelles choses, des nouvelles manières de courir, hein, des nouvelles marques aussi, ont une autre vision, ou en tout cas se sentent confortés dans leur vision que bah, finalement ils peuvent courir de la manière dont ils aiment courir. Et là vous allez voir que justement cet épisode avec Cécile Bertin il est vraiment intéressant parce qu'elle revient notamment sur cette histoire de marche, de course, sur ses débuts, sur les difficultés de ses débuts, sur comment on passe de quelqu'un qui n'est pas du tout sportive et qui se lance dans un défi de courir un marathon, mais en fait de faire beaucoup plus. Et vraiment elle raconte vraiment tout ça et on parle souvent des bouquins parce que c'est ce que je disais, hein, on a enregistré cet épisode, j'avais pris deux bouquins qu'on a sous les yeux. Un des premiers bouquins, ben c'est l'un des premiers, c'est le premier qu'elle a écrit, qui est ma femme l'avait acheté pour se mettre à la course, et ce livre a 10 ans maintenant, plus de 10 ans maintenant. Et puis son dernier livre qui est sorti, qui s'appelle Cours toujours, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode bien entendu, où elle raconte toutes ses anecdotes, vraiment toutes les petites anecdotes sur la course, sur comment elle a commencé, et ça vous donne envie de courir, voilà, ça vous donne envie de courir. Alors vous courez hein, normalement, mais si vous ne courez pas encore, vous aurez envie de courir sans aucun doute après avoir écouté et après avoir lu ce que raconte Cécile Bertin. Et si vous connaissez quelqu'un qui aurait envie de courir ou qui vous sentez que ça lui ferait du bien de courir, je pense que vous pouvez sans aucun problème la diriger, cette personne-là, vers ce que fait Cécile Bertin, vers les écrits, que ce soit une femme ou un homme, hein, parce que c'est vrai que on a la vision que d'abord elle avait fait son livre était sur courir au féminin, mais en fait notamment son Cours toujours est vraiment adressé à tous les publics, que vous soyez un homme ou une femme, vraiment vous allez vous reconnaître dedans et vous allez avoir vraiment la vision et son parcours et comment elle le raconte avec un très grand talent. Donc on a discuté pendant allez, 1h20 peut-être environ, je sais pas, j'ai pas regardé exactement le timing final de l'épisode, mais on a exploré un petit peu tout ça, on a d'ailleurs parlé de marche, de course, on a parlé aussi de mental, de la différence entre les hommes et les femmes dans l'approche de certaines courses des fois, de son approche à elle aussi, ben du désert par exemple, le fait d'avoir couru sur 7 continents. le fait d'avoir fait des dizaines de marathons, le fait d'avoir gagné un marathon aussi, à sa grande surprise, elle racontera ça. Donc vraiment plein de petites anecdotes qui montrent aussi un côté, peut-être qu'on voit pas comme ça si bien, hein, ces aventuriers de la course à pied. Et vraiment, je suis super heureux que Cécile Bertin ait participé à ce 50e épisode, qui est vraiment un chiffre symbolique. Voilà, je vous laisse écouter maintenant ma discussion avec Cécile Bertin. Et je vous souhaite, je vous dis encore une nouvelle fois merci, et je vous souhaite des bons entraînements, des belles courses, des belles sorties, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode qui est le 50e épisode de Kilomètre 42 et je suis vraiment super content de faire cet épisode avec toi. Je te connais par le biais, et je le disais, et on en parlait juste en off avant, c'est assez drôle, c'est en fait par ma femme, voilà, tout simplement. Et ma femme, avant de débuter l'enregistrement, m'a dit « passe le bonjour à Barbie ». Alors, dit comme ça, il faut expliquer un petit peu le contexte, et ce qui va me permettre de te laisser te présenter et de dire un petit peu qui tu es.
Alors, qui je suis ? Cécile Bertin. J'ai donc 50 ans, donc c'est pour ça que le 50e épisode tombe bien. J'ai 50 ans dans pas très longtemps. À titre perso, mère de 4 enfants, j'ai commencé le running sérieusement, entre guillemets, quand je me dis sérieusement, après la naissance du 4e. Il y a eu un petit épisode juste avant, mais j'ai le projet de courir un marathon est né avant la naissance de Paul. Mais tout s'est vraiment concrétisé après, donc on va dire que ça fait 14 ans que je cours. Voilà. Et tout a commencé pour une seule idée, courir le marathon de New York. C'était très précis, hein, ce n'était pas courir un marathon, c'était courir le marathon de New York. Point. Comme on aurait pu décider de sauter en parachute, d'aller. Enfin voilà, c'était un projet qui n'avait presque aucun sens. Dans ma vie, pas plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un jour dans un avion à sauter dans le vide parce que ils ont fait un pari débile ou un truc comme ça. Bah, c'était à peu près du même ordre dans mon cas. Et puis donc toute l'histoire. Donc je peux raconter l'histoire de Barbie. Alors d'où ça vient?
Ah oui, il faut raconter.
En fait, voilà. Mais en fait, c'est un peu l'histoire est un peu particulière, cette histoire avec mon Barbie. J'ai dans ma première vie professionnelle, j'ai eu à faire de l'accompagnement de personnes malades. Donc, c'était pas du tout gay à la base. Enfin, gay, tout est relatif, mais... et en fait, j'étais celle qui racontait sur un réseau intranet les blagues de blondes. Voilà. D'accord. Pour le temps de l'atmosphère et tout ça. C'était à l'époque à la Ligue contre le cancer. Et puis, au même moment, pratiquement, ma fille a sa meilleure amie, mais on est en maternelle. Elles ont 2 ans, 2, 3 ans. Sortie d'école, une maman me dit « Ah, mais c'est vous la maman d'Emma ?» Mais c'est vrai, vous avez les cheveux de Barbie. Donc, les types de la cour de récré, j'étais à l'époque, j'ai toujours les cheveux blonds de toute façon, mais à l'époque, ils étaient très longs et j'ai découvert que les petites m'avaient appelée la Barbie. La maman d'Emma, c'était Barbie. Donc, c'est, voilà. Et un jour, il a fallu que je trouve un pseudo. Barbie est sortie comme ça, sans réfléchir une seule seconde. Et surtout sans savoir que ça allait me poursuivre, entre guillemets, pendant pas mal d'années. Je ne le regrette pas, hein, parce que c'était plus... Je me suis pas mal retrouvée dans l'idée... J'étais un peu un extraterrestre dans cet univers, j'ai eu l'impression, parce qu'il faut tout remettre dans son contexte. Hein. Il y a 14 ans, d'abord, l'engouement du running n'était pas au stade qu'on est aujourd'hui. On est très peu de femmes à courir. Très vite, j'ai été la blonde. Enfin, ça a été... voilà... C'est une réalité. Et comme en plus, je ne comprenais rien à cet univers-là, j'avais vraiment l'impression de mettre les pieds dans un truc qui était incompréhensible avec des pourcentages, des chiffres, des premiers temps d'entraînement et tout. Je me suis dit, t'es vraiment, ouais, ça va être compliqué là. Et j'étais la naïve qui découvrait. Donc je trouvais que ça allait très bien avec Barbie. Et puis c'est resté comme ça. Et c'était pour le groupe, donc Courir au féminin que j'ai créé. Bah, le pseudo est resté. Et toutes les filles de ce groupe-là, de la base, m'appellent toujours Barbie.
Oui, alors ma femme, elle m'a dit un autre truc. Elle m'a dit, il faut que tu la remercies, car c'est grâce à elle que j'ai commencé à courir, grâce à ses conseils et sa bienveillance. Et je crois que c'est vraiment ce qui caractérise... parce que, alors, pour l'anecdote, hein, j'ai ressorti un livre qu'elle avait acheté, elle, qui s'appelle « Courir au féminin ».
C'est un lecteur, celui-là.
Et donc, c'est drôle, elle m'a dit ça, et elle m'a dit, bah, c'est grâce à ce livre que j'ai commencé, etc. Et c'est vrai que cette place de comment on commence à courir et autres, c'est pas évident, parce qu'on n'avait pas Instagram à l'époque, il y avait des blogs, des communautés, hein.
Il y avait très peu de choses. Moi, c'est vrai que j'ai un sentiment que je pars comme une espèce de dinosaure d'un monde que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais il faut vraiment se remettre ça dans le contexte. Il y avait d'abord pratiquement dans les revues. Enfin, ça ne me serait pas venu à l'esprit, surtout à l'époque, d'aller acheter une revue spécialisée dans un sport. Pas au niveau où j'en étais. Même à la rigueur, acheter un livre, je ne sais pas. On était vraiment perdus. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai eu la démarche d'aller m'inscrire dans un club tout de suite. Mais ça n'a pas été évident. Je suis quand même aussi là arrivée dans. Enfin, on m'a un peu pris de haut, ça s'est calmé après, derrière. Mais je reconnais que les premières semaines, c'est pareil. Je me suis demandé ce que je foutais là, quoi. Je n'avais aucune légitimité et on me le faisait bien comprendre, surtout. C'est ça qui n'est pas forcément évident. Mais comme bon, après, je suis un peu têtue et que j'en fais qu'à ma tête. Mais ça s'est bien révélé mais, à ce moment-là. Mais. Ça a été, mais j'ai pensé tout de suite à toutes celles qui n'avaient pas forcément la force que j'ai pu avoir à ce moment-là, quoi, d'en gros tenir tête à un entraîneur affilié de la FFA qui m'avait dit « vous n'êtes pas capable de courir un marathon ». Donc, heureusement que voilà, je ne l'ai pas écouté.
Oui, parce mais... que depuis, il y a eu quand même…
C'est 2 ans quand même.
Un sacré paquet de kilomètres de couru.
Oh bah oui, j'en sais rien. Moi, alors, comme je suis inscrite sur aucun, faut pas me demander le nombre de kilomètres. Strava, c'est pas mon ami. J'ai aucune idée et je suis connue aussi pour ça parce que j'oublie un coup sur deux de démarrer le truc. Donc, il a fallu un jour, quand on m'a demandé combien de marathons vous avez couru, c'est pas prétentieux du tout ce que je veux dire, c'est vrai. Hein. C'est, vous avez couru combien de marathons? Ah, bonne question. Donc là, je suis allée rechercher dans la boîte à médailles et j'ai mis les médailles sur une table et j'ai compté.
D'accord.
Donc, parce que j'avais un peu perdu le fil, en fait, parce qu'il n'y avait pas de notion de, pour moi, de chiffres. Et comme en plus, alors, il ne faut pas le dire, hein, parce que c'est totalement interdit, mais au départ, quand j'ai commencé à courir, il m'est arrivé en plus d'aller courir des marathons en récupérant le dossard d'une copine au dernier moment, parce qu'elle était blessée. Truc qu'il ne faut surtout pas faire, que j'écris dans mes articles. C'est pas bien. Mais comme je le fais quand même. J'ai quelques médailles qui du coup, des marathons que j'ai courus sous le nom de quelqu'un d'autre. Donc, même si on se remettait sur le listing, on n'a pas le chiffre exact.
D'accord. Voilà. Le chiffre, alors, il serait à combien le chiffre, à peu près?
Officiellement à 41 marathons, ça c'est sûr. Donc, il me reste le fameux 42e. Voilà. Parce qu'en fait, à la base, j'avais prévu de m'arrêter à 40, symboliquement. J'ai commencé à courir en me disant je courrai le marathon de New York pour mes 40 ans. Donc le chiffre 40 était là et puis bon, donc, tout est un peu parti en cacahuète derrière, mais puisque je l'ai couru avant mes 40 ans, mais ça c'est un hasard de la vie. Et du coup je m'étais dit j'arrête au 40e marathon, c'est symbolique et donc pour la petite histoire, il se trouve que j'ai bénéficié puisque maintenant j'ai des contacts. Non, mais il y a eu. Voilà, j'ai bénéficié d'un dossard sur le marathon de Boston comme invité.
Ouais.
Je n'avais jamais couru Boston. Je me voyais mal dire ah non, j'ai dit que j'arrêtais au 40e. Donc, évidemment, que je suis allée faire mon 41e à Boston. Voilà. C'était une opération, on va dire, de communication. Il faisait pour la participation du. C'était pour l'anniversaire de la participation de Bobby Gibb. Donc, ils ont invité pas mal de femmes et de femmes qui ont, des trucs un peu rigolos avec les marathons. Donc, c'est dans ce cadre particulier que j'ai pu bénéficier d'un dossard en tant qu'invité, donc sans temps qualif, ce qui tombait bien parce qu'à l'époque, j'en étais plus capable de faire mon temps qualif. Et voilà, c'est pour ça qu'il y en a 41. Et du coup, ça a réveillé le truc. Et puis, tu faisais un 42e. Et puis, le 42e était envisagé cette année pour mon 50e anniversaire. Comme tout le monde le sait, 2020 n'est pas une année à marathon. Donc, bon.
Oui, c'est pas une année à course, hein, d'ailleurs. On sort d'une période de confinement. Je ne sais pas comment tu l'as géré, toi, hein, si tu as couru, si tu as totalement arrêté.
J'ai très mal géré. Non, j'ai très mal géré dans le sens où moi, je fais partie du petit pourcentage qui est réel de gens qui n'ont absolument pas couru. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à courir. Ça a été presque ma surprise Mais j'ai fait une tentative, c'est-à-dire que dès qu'on a commencé à avoir les règles, on commence à savoir où vous pouvez, qu'on a eu cette fameuse heure autorisée, je me suis retrouvée donc à partir courir avec mon petit papier dans la poche bien rempli, avoir bien repéré mon parcours d'un kilomètre autour de la maison. Et me voilà partie et je me suis demandé ce que je faisais là. Je n'ai pris aucun plaisir et ça ne correspondait pas du tout à ma vision du running, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai tout arrêté en me disant ça reviendra peut-être. C'est pas revenu du tout. Je suis sortie tous les jours marcher 1 heure, prendre l'air. Ça, j'ai fait ma marche 1 heure. Mais c'est tout. J'ai été incapable de courir. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte qu'on était pas mal de ceux qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire que pour qui la course à pied est devenue plus une pratique d'ultra, de partir à l'aventure dans un désert, partir machin. Pour nous, vraiment, enfin, il y a vraiment cette notion de liberté qui est une partie très importante dans la pratique sportive. Si on me l'enlève, elle ne m'intéresse pas. Sans parler de plus aucun objectif, donc plus aucune obligation. Voilà. Mais c'est particulier. Hein. Donc, vraiment, je jure sur la tête de mes gamins, je ne fais pas partie de ceux qui ont dépassé le kilomètre, qui ont fait des tours dans leur jardin, alors que dans l'absolu, j'ai un grand jardin, j'aurais pu. Ça, non, c'est voilà. J'ai fait du homepreneur, Netflix et c'est tout.
Mais moi, je fais partie du même pourcentage parce que je n'ai pas couru du tout, hein, vraiment. Et c'est ça qui. Et je l'avais dit, hein, de le premier jour, au début du confinement du podcast, j'ai dit, moi, je ne vais pas courir. Et j'étais pressé d'aller retrouver mes petits volcans, monter sur ma colline, etc. Mais qui étaient en dehors de la zone du fameux kilomètre. Donc, je ne pouvais pas y aller. Donc, de toute façon, ça m'aurait frustré de devoir aller courir un petit peu. Donc, j'ai vraiment arrêté de courir. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout surpris par ce sentiment-là.
Puis en plus, c'est ça. Ça aurait peut-être été différent si on avait habité, je sais pas, une ferme avec juste à côté la forêt ou un truc comme ça. Mais moi, j'habite dans un village charmant, que tout ce qu'on veut, mais en faire le tour comme un hamster. C'est-à-dire que le kilomètre ne me permettait pas de sortir du village. En fait, il est suffisamment étalé pour. Donc voilà, si c'est pour aller faire un tour, passer 4 fois dans la maison de retraite et l'hôpital. Ah, c'est un peu ça. C'était le résumé de ma boucle. Ben non. Voilà, donc ça s'est arrêté là. Mais du coup, je galère à reprendre, hein, ça, je confirme. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, on n'a pas encore vraiment d'objectif, hein, voilà.
Non, c'est ce que je disais moi sur Instagram, c'est que j'ai pas d'objectif, ce qui fait que je m'entraîne vraiment d'une manière très sporadique. Hein. Je suis allé ce matin, j'étais pas allé de la semaine, et vraiment un petit peu. Je pense qu'on est beaucoup dans ce genre-là. Hein.
Oui, non, mais tout à fait. Non, mais finalement, on l'est plus. Mais c'est vrai que ça a été un peu le problème, finalement, à la fois de la télé, des réseaux sociaux et tout, qui ont déformé complètement ce mouvement, entre guillemets, où on a eu d'abord tous les néo-coureurs, on a eu le sentiment que la France entière s'était mise à courir. Bon, c'était un peu plus compliqué que ça, je pense. Et puis, on avait ça, on avait les quelques marathoniens enragés, là, qui nous ont fait 49 ans dans leur jardin, sur leur balcon, donc qui nous ont fait passer aussi, pour certains, pour des fous furieux, complètement accros. Donc, c'était pas forcément, il y a eu un côté rigolo, mais pas aussi valorisant qu'on veut bien le dire, parce que moi, clairement, j'ai eu, c'est ça, dans mon entourage, on m'a dit, bah alors, tu fais pas des tours de jardin comme hamster à la con? Enfin, on sentait que vraiment, à chaque fois, c'est pas du tout vu d'une façon positive, cette histoire. Donc, bon, je pense qu'on est, ouais, on est. Ça a été vraiment déformé. On a eu un miroir déformant de cette situation, alors qu'on a été plein. On a été plein à respecter, on a été plein à faire sagement ce qu'il fallait. Et c'est tout beaucoup plus qu'on le pense à ne rien faire. De toute façon, parce que faire des tours du lotissement, pas trop, quoi.
Et oui, et donc c'est vrai que bon, c'est un sujet qui était un peu de. Oui, il y a eu des questions. Moi, on m'a dit, ah, est-ce que tu cours? Pourquoi tu cours pas? Comment tu fais? Etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Moi, j'avais décidé de pas courir. Alors pour préciser aux auditeurs, moi, la reprise, ils se sont rendu compte que bah ça a été compliqué. J'ai une petite douleur au mollet qui est revenue alors que j'ai couru que 20 minutes. Notre corps s'est désadapté, hein, c'est pour ça que je disais qu'il fallait prendre le temps de se réadapter. Et ce qui est intéressant, et maintenant on va passer sur un autre parcours, c'est que finalement on vient de parler de 41 marathons, on a parlé de kilomètres, d'années de course, alors que pourtant, hein, et c'est là quand on prend les livres, écrits, etc. À une époque, le sport faisait pas du tout partie de ta vie.
Ah ouais, non, moi c'est. Mais à un point que je pense que personne ne peut envisager, quoi. Parce que donc non seulement je faisais pas de sport extrascolaire, mais même je faisais plus de sport scolaire. Donc ça donne une idée. J'ai été dispensée à partir du lycée, en fait, fin du collège. Et, pour le lycée, c'était terminé. Pour mon plus grand bonheur, parce que je détestais ça à un point, je crois que c'est, voilà. Difficile. J'étais la personne qui était ravie de rester sur le banc de touche, ravie de garder, faire vestiaire. La dernière choisie, vous savez, quand on fait les équipes, forcément moi, j'ai un souvenir. Heureusement, j'ai bien pris psychologiquement, hein, parce que j'aurais pu vraiment me sentir le vilain petit canard, hein. Mais j'étais vraiment ravie quand, par exemple, on avait c'était un groupe qui était un pair et donc il fallait qu'il y ait une personne qui se sacrifie et qui reste à surveiller. Ah, très bien. Arbitre, ça m'allait très bien. On fait du chrono, ça m'allait très bien. Surtout pas faire fort. Et puis donc j'ai été dispensée par la médecine scolaire pour des problèmes de dos suffisamment importants pour que ça justifie un arrêt à ce moment-là. Et puis bah du coup j'en ai jamais fait. Pour moi, ça me serait pas venu à l'esprit de faire du sport, en fait. Je faisais même pas de genre le ski une fois par an comme certains peuvent faire. Même pas ça, on n'allait pas du tout à la montagne. Donc c'est un univers que j'ai découvert sur le tard pour moi. Et voilà, le vélo, c'était le vélo pour me nourrir, pour aller chercher le pain. Et à l'île de Ré, où c'est plat. Voilà. Donc, c'est vraiment à ça que se résumait ma pratique sportive. Donc, vraiment, je suis passée de presque de tout à rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir conscience que je suis passée de « je ne fais pas de sport » à « je vais courir pour faire un marathon ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de… Ma démarche n'a pas été de « je commence à courir pour maigrir, pour retrouver la forme, pour tout ça ». Et puis au fur et à mesure, je progresse et je me mets des objectifs plus ambitieux. Pas du tout, pas une seule seconde. Moi, j'étais, je vais courir 42 km. Voilà. Et n'importe quoi. En ayant, c'est ça qui est drôle en fait, parce que je ne sais pas ce qui m'a pris et surtout, en plus, je l'ai fait assez vite. Donc, c'est une des choses presque qui me fait regretter finalement toute cette situation et c'est presque ce rejet du sport que j'ai eu. Pendant des années, parce que, bah, avec le recul, je me dis que ça aurait peut-être été sympa de commencer un peu plus jeune, quoi. Puis d'aller peut-être un peu plus, de progresser. Mais après, c'est bon. Ce qui est pas mal aussi, c'est que le fait justement d'avoir finalement fait un marathon très très vite et de ne pas être morte au bout de 35 bornes m'a ouvert aussi voilà, m'a donné l'idée que j'étais peut-être capable de beaucoup de choses et donc m'a libérée tout de suite. Et m'a fait aller vers l'ultra très, très vite. Où là, je me suis trouvée, vraiment. Enfin, où j'ai découvert la discipline dans laquelle je m'éclate le plus. Je ne suis pas douée, mais je m'éclate. Et voilà. C'est quand même, ça a eu un avantage aussi, quoi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors je le dis parce que j'ai deux livres, hein, et j'en ai un qui est en ce moment un livre de chevet, qui est le dernier livre qui s'appelle « Cours toujours », dont je mettrai les références dans les notes d'épisode. C'est mon livre de chevet, alors je lis pas très vite parce que le soir j'ai tendance à m'endormir sur les livres. Hein. C'est pas que le livre est ennuyeux, parce qu'autrement, il est très très marrant, hein, il faut le dire, c'est des petites chroniques, des histoires, etc. Et où on retrouve une partie de cette histoire-là, notamment. Alors, on retrouve une petite anecdote. Alors, on retrouve les surnoms, parce que tout à l'heure, on parlait de Barbie, mais il y a un autre surnom qui est la Tour de Pise, hein, pour donner une image quand même du dos, quoi.
C'est ça. Et c'est hallucinant, parce que je dois ce surnom à Dominique Chevalier, au demeurant, donc grand champion français, s'il en est, avec qui j'ai fait un stage de préparation marathon. Parce que j'ai fait ça sérieusement, hein, avec mon côté un peu foufou, je suis quand même allée m'inscrire en club à la FFA et donc j'ai fait un stage de préparation pour le marathon. Et c'est Dominique qui me voyait en courir, m'a dit bon, c'est pas possible, c'est une vraie Tour de Pise, tellement je cours penchée. Et c'est vrai que si on regarde les photos, enfin, toutes les photos qui peuvent être prises de moi en course, ça fait peur. Hein. Pour ça, tout le monde me dit « Ah, mais t'as pas de photo de toi en course ?» Ah non, 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 franchement, non, pas d'intérêt, quoi. Me voir tordu à ce point, c'est-à-dire que, bah, de toute façon, je peux rien faire contre. Il y a une jambe plus courte que l'autre, hein. Et voilà. Donc, ça se voit. Et j'ai pas forcément envie de les voir en photo. Mais c'est une réalité, ouais. La Cour des Pignes.
Bon, pour la question qui vient, je reprends juste la parole parce qu'on a eu un petit enregistrement, un petit problème technique sur l'enregistrement. Moi, sur mon ordinateur, il y a un petit bug. Mais en fait, ça a coupé pile au moment de ma question. Donc, la question que je lui posais, en fait, c'est que dans le livre, elle raconte une anecdote sur son prof de quatrième et notamment le mauvais souvenir qu'il lui a laissé. Et donc, je sais, parce que j'ai eu des discussions avec certains d'entre vous qui écoutent le podcast et vous m'avez dit que vous avez vécu ce même type de souvenir. Vous avez le même type de souvenir. Et donc, vraiment, on en a reparlé parce qu'elle en parle dans son livre. Et donc là, on reprend avec sa réponse et l'enregistrement.
Ah bah oui, mais ça, j'en veux beaucoup, l'éducation nationale, au propre sport. Je pense que vraiment, je l'ai vraiment vu. Je l'ai vraiment vu, en fait, je crois qu'au début, je pensais, c'est pas que je pensais être seule, mais je crois que c'est vraiment le jour où, justement, j'ai dédicacé Courir au féminin, donc le premier, sur la Parisienne. Donc la course de filles à Paris. Et là j'ai passé ma journée du samedi à avoir plein de femmes qui venaient me voir et avec qui je discutais. Et le pourcentage de traumatisés du cross du collège, je m'en rends pas compte. Enfin c'est colossal en fait. Et c'est vraiment on le sent. Donc je me dis qu'il y a quand même un vrai problème parce que le sport à l'école est pour moi indispensable. Doit vraiment être. Je ne considère pas que ce soit une sous-matière, très clairement, mais il y a vraiment un problème. Alors, je ne parlerai pas des nouveaux profs qui ont peut-être, Dieu merci, évolué, mais je pense qu'on est vraiment toute une génération de femmes, surtout, et j'imagine que vous devez avoir chez les hommes aussi, parce que sur un cross, il y avait la dernière fille, mais il y avait le dernier mec aussi, hein, et qui était souvent pas très loin de moi, à l'agonie. Et qui se prenait des moqueries et des choses comme ça, à la fois par les autres élèves, mais ça, à la rigueur, on a l'habitude, on est entre nous, mais qui se prenait aussi des réflexions désagréables du prof. Et vraiment, on a eu, on est beaucoup, 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 les traumatisés du prof, du sport à l'école. Voilà. Je pense qu'il faut revoir ça, c'est urgent, s'ils veulent des jeunes à Paris 2024.
Et oui, et c'est vrai que, et c'est vrai, je le dis, hein, parce que j'ai vu le témoignage, j'ai eu pas mal de témoignages dans ce cas-là. Moi, j'étais pas dans ce cadre-là, parce qu'à l'époque, j'étais plutôt sportif, c'est après que le sport s'est arrêté. Mais là où, dans le livre, il y a des trucs qui sont marrants, parce que, et je pense que tout le monde va se reconnaître quand il a débuté un petit peu tard. C'est-à-dire que, moi, je dis, il y a ceux qui ont toujours couru, qui se rappellent pas le jour où ils n'ont pas couru, et puis il y a ceux qui ont un jour se rappellent du jour où ils ont commencé à essayer de courir. Et ouais. Dans le livre, c'est tellement bien raconté ces histoires, notamment l'histoire avec la compilation là de des astuces pour commencer à courir. Qui c'est vraiment mais c'est moi j'en trouve c'est drôle, mais en fait tout le monde se reconnaît là-dedans.
Oui, je pense que c'est ça qui est chouette. Enfin, je suis contente parce que c'était pas c'est pas aussi simple que ça de transmettre en plus ces petites histoires. Et ce qui m'a fait d'abord très plaisir, c'est que j'ai eu pas mal de retours, donc à la fois d'hommes et de femmes. Donc, c'est-à-dire que il faut pas considérer que parce que je suis une femme, il m'arrive que des histoires de filles. Voilà. Les hommes aussi se reconnaissent beaucoup, parce que bah, de toute façon, je pense qu'il faut arrêter. Je veux dire, un homme qui commence à 40 ans à courir, qui a pas fait de sport lui non plus depuis le lycée, il a dû galérer comme moi. Voilà, on a les mêmes problèmes, hein, de prendre de côté et de se demander ce qu'on fout là. Donc je pense qu'on va on est beaucoup à se reconnaître. Donc, ça, c'est bien. Puis j'essaye surtout, j'ai toujours essayé de traiter ça en humour, c'est-à-dire de dédramatiser le truc. Là, temps mort, c'est juste du sport. Hein. C'est que ce soit du plaisir. On va y avoir des moments de galère, mais il faut essayer de le prendre à la rigolade. Et moi, je suis plutôt très second degré et tout. Donc, j'aime bien quand les gens apprécient et se marrent aussi avec mes galères. J'en ai eu quand même. Ou même quand je ne les cherche pas, elles me tombent dessus. Donc, et j'ai des témoins pour confirmer que tout m'est bien arrivé.
Oui, et puis alors c'est drôle parce qu'on découvre un autre surnom, parce que finalement il y a plein de surnoms, le Pierre-Richard de la course à pied du running, qui est quand même, ça montre quand même le niveau d'aventure qu'il peut y avoir.
Hein. Non, mais tout est vrai. Enfin, c'est une vraie blague. Il m'est arrivé que des histoires comme ça. Et ça continue à m'arriver. Et encore maintenant, on s'en sort un peu parce que plus facilement. C'est-à-dire que sur les départs de course, maintenant, c'est assez courant d'avoir au moins un petit stand où il y a des gens qui vendent des trucs en urgence. Je peux enfin me sortir du truc. Mais non, il m'est arrivé vraiment les oublis. Père Richard. Vraiment. Et tout m'est arrivé à peu près. Donc, avec quelquefois des conséquences pénibles, hein, parce que je Pierre Richard, mais j'ai eu des abandons dus à des oublis de ma part, ce qui n'est pas forcément très agréable, hein, parce que je ne prends pas le départ pour abandonner déjà. Mais oui, non, c'est vraiment des choses. Pour ça, j'ai essayé de raconter ça sous forme de chronique rigolote, mais aussi pour, voilà, pour dédramatiser et pour que les gens se disent, oh, bah, ça va. Et, si ça lui est arrivé à elle aussi, c'est bon. Mais oui, j'ai des blocages comme ça, mais je dis, ça relève de la psychiatrie. Un jour, j'en parle à un psy, hein, parce que le nombre de brassières, j'ai un tiroir rempli de brassières, mais c'est parce que je rachète en urgence, je les oublie tout le temps. Surtout, on oublie un soutien-gorge. Hein, voilà. Le GPS que je démarre jamais, enfin, j'ai un beau bijou au poignet, mais il va être chargé systématiquement quand j'en ai pas besoin, mais le départ d'une course, faut être sûr qu'il y a une chance sur deux qu'il soit déchargé. Je sais pas comment je me débrouille, mais ça, c'est mon grand classique. Vraiment. Voilà pour des petites anecdotes de
Oui.
Barbie catastrophe.
Ouais, c'est très marrant parce que ça dédramatise beaucoup la course. Alors moi, l'anecdote que j'adore, c'est finalement la tactique que tu as utilisée pour commencer à courir. Alors il y a le premier coup, c'est on part courir toute fière et puis un point de côté au bout de 500 mètres. Ça, c'est le classique.
Oui. Ah bah oui, parce qu'on part comme un cadou, on n'a aucune idée, et qu'en gros on part en sprint, voilà. Oui, en fait, moi, mon premier coach de running, c'est David Guetta. Hein. Et clairement, je dois ma longue carrière de runneuse. Non, mais je me balance de David Guetta. Mais ouais, en fait, je me suis servi de la musique parce que je suis une accro aux écouteurs, et là, c'est pareil. Hein, c'est une réalité. Hein. Quand on retrouve des photos de moi voilà, qui sont mises en ligne, j'ai des écouteurs. J'ai besoin de la musique. Moi, je fais partie de ceux. J'en ai besoin. Et j'ai commencé en me disant, bon, bah, faut que je trouve une solution. Et donc, je courais sur une chanson et je marchais sur une chanson. Donc, voilà, je partais d'une playlist. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et puis, voilà, au bout d'une semaine, j'étais capable de courir sur deux chansons. Et je marchais une chanson. Donc, en fait, j'ai alterné. Je ne savais pas du tout, c'est-à-dire qu'à l'époque, vraiment, j'avais aucune idée. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai commencé en faisant du Cyrano, c'est-à-dire l'alternance course-marche et tout, qui est un truc hyper classique, j'ai absolument rien inventé, hein. Mais c'est ce qui m'avait paru le plus naturel. Et c'est resté. Et je l'ai même fait, donc, ça, je ne le raconte pas dans le livre, et c'est presque dommage. J'ai continué d'abord à le faire très souvent sur des courses. Et par exemple, une fois, je me suis retrouvée à accompagner quelqu'un sur le marathon de La Rochelle. C'était son premier marathon. Et je me suis servie de ça. C'est-à-dire il s'est pris le mur. Il n'était pas assez entraîné et il s'est pris le mur. Et en fait, je lui ai dit, on va marcher, d'accord, tu as le droit, mais tu as le droit à une chanson. Et après, on va recourir. Et en fait, je lui ai fait passer le mur comme ça, rebelote, en disant, tu as le droit, donc tu marches. Mais on va redémarrer. Et donc, j'avais mes écouteurs et j'ai pris le rythme comme ça. Et ce qui fait qu'on a passé le mur et on a galéré, on va dire, du 35 au 38 à peu près. Voilà, il a un peu galéré. Et au 38e, on est reparti et on a couru les 4 derniers kilomètres sans problème. Je vais juste faire un petit truc, mais pour donner une idée quand même de la mentalité de l'époque et qui est, à mon avis, toujours valable, à ce moment-là, donc, où on alternait course et marche tous les deux, quand les gens nous doublaient, on me disait, allez madame, vous allez y arriver. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils envisageaient que celui qui était dans la galère, c'était le mec avec qui il était. C'est-à-dire que c'est forcément moi, le maillon faible. Je disais, non, c'est lui qui va pas. Et lui, il était, non, non, mais c'est moi qui essayais de corriger. Et il me disait, mais c'est hallucinant le sexisme que tu peux avoir sur une course. Il a découvert ça avec moi parce que vraiment, à aucun moment, et on était sur le marathon de La Rochelle, donc il y avait un peu de monde. Les gens qui nous ont doublés ont envisagé que c'était lui qui était dans la merde et pas moi. Ça c'est un signe aussi. Donc, je suis devenue féministe enragée avec le running.
Et oui, mais en fait, le running est d'ailleurs un endroit, surtout sur les distances ultra d'ailleurs, hein, quand les distances s'allongent, où la résistance féminine, la détermination, fait aussi, je pense qu'il y a un avantage, hein, enfin, est-ce que c'est un avantage vraiment pas? En tout cas, moi je constate sur les courses que les femmes, souvent, sont beaucoup plus résistantes que nous.
Oui, alors c'est un grand débat justement que j'ai eu un jour avec Laurent Arditaud, donc qui est le coach de la team ASICS Trail. On a eu cette discussion par rapport à ça. Donc, de toute façon, au niveau physiologique, c'est une réalité. Point. C'est juste une question aussi de taux de graisse. C'est-à-dire qu'on a plus de gras, même si on est à poids, on va dire à poids taille égale avec un homme, on aura une masse graisseuse qui est plus importante. Donc, par la force des choses, physiologiquement, on tapera dans le muscle plus tard. C'est tout. Il y a une question physiologique. On dit souvent que les femmes ont tendance à rester en dessous, en fait, à ne pas se faire mal tout de suite. Donc, ça leur permet de remonter. C'est-à-dire, moi, je dis souvent que je fais ramassage scolaire sur les ultras. Donc, je pars, voilà, je peux être capable de partir dernière et de finir dans les 10 premières parce qu'en fait, j'ai remonté tranquillement mon petit train en étant capable de me mettre en dessous, en fait, ne pas attaquer tout de suite dans le dur. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est une discussion aussi que j'avais eue avec Catherine Poletti, donc sur l'UTMB, qui me disait, donc depuis qu'elle est sur les lignes d'arrivée de l'UTMB, c'est depuis le début, elle a jamais vu, ils n'ont jamais eu besoin d'évacuer une femme. C'est-à-dire que, qui passe à la ligne d'arrivée, hein, ils ont eu besoin d'évacuer des hommes qui ont tout donné dans la dernière descente et qui s'est mis très mal. Alors, c'est peut-être valable, c'est peut-être plus valable parce que cette discussion, on a dû l'avoir il y a 2, 3 ans, donc il y a peut-être eu des changements depuis les 2, 3 dernières années, je parierais pas là-dessus, mais elle me disait, on n'a jamais eu besoin. C'est-à-dire que même au niveau des élites, même elles, en donnant à fond, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles sont sous régime, hein, ça y va, j'ai pas, voilà, mais elles se mettraient voilà, en sécurité un peu plus longtemps qu'un homme. Mais par contre, je reste convaincue que, on le dit souvent, l'encaissement à la douleur. Il y a des élites hommes qui encaissent un niveau de douleur hallucinant. Et donc, ça, je ne pense pas qu'il y ait une réelle différence. Enfin, la force mentale d'acceptation de la douleur, elle est pour moi équivalente entre un homme et une femme. Je pense que franchement, même Kylian Jornet, même François Denne et tout, sont des gens qui ont une capacité d'encaissement de la douleur qui est largement équivalente à celle des femmes. Ça, à un moment, il faut quand même pas non plus trop nous séparer.
Ouais, mais la gestion, c'est vrai que de la course, moi je le dis souvent, c'est une discussion que j'ai eue au club il y a pas très longtemps, où je disais, à chaque fois que sur un trail, je vois une femme qui me double, et que j'essaye de m'accrocher, je n'arrive jamais à m'accrocher parce qu'on court vraiment pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a c'est une vitesse qui est très régulière. Moi, j'appelle ça souvent une vitesse tracteur, un petit peu, mais que ça soit du plat, de la descente, de la montée ou n'importe quand, c'est toujours la même vitesse. Alors que nous, on est toujours en espèce d'oscillation, dents de scie, etc. On a l'impression qu'on s'use à essayer d'aller vite par moment, de ralentir par d'autres. Et j'avais dit un jour à quelqu'un, j'ai dit, écoute, sur un trail, j'ai essayé de suivre une dame qui me paraissait comme ça courir à la même vitesse que moi, sauf qu'elle est arrivée largement devant moi, alors que en apparence, elle courait pas plus vite, mais juste toujours à la même vitesse.
Oui, non, mais ça, c'est typique. Il y a un des plus beaux exemples que je connais de vitesse tracteur, hein, ce qui ne lui plaira pas parce que c'est plutôt une gazelle, mais justement, elle est de Clermont, Valérie Levé, qui est une coureuse ultra que moi j'ai eu la chance d'admirer parce que franchement, il n'y a pas d'autre terme. Et elle a une vitesse, elle a d'abord une vitesse constante hallucinante parce qu'elle tient ça sur plus de 100 km. Hein. Une foulée rasante, une efficacité redoutable. Et quand Valérie est lancée, eh ben, accrochez-vous. Et bien, généralement, elle finit bien devant. Et c'est vraiment étonnant. Et je crois que, moi, souvent, on me l'a dit, et puis de toute façon, je le constate, hein, parce que bon, ça m'arrive quand même de brancher mon GPS, hein, de temps en temps. C'est presque un peu frustrant, d'ailleurs, de voir que finalement, c'est linéaire, quoi. C'est-à-dire que tu pourrais vraiment accélérer dans les descentes un peu plus sérieusement, mais. En fait, oui, c'est assez, c'est très régulier et ça fait très meneuse d'allure. Ouais. Je l'ai eu, par exemple, vraiment des capacités, c'est ce qui me sauve, hein, d'ailleurs, hein, sur des distances longues, sur des étapes longues, de marathon des sables, des choses comme ça, où là, j'ai vraiment l'impression que je mets en route un truc et c'est parti. Je mets en route mon rythme et ça peut tenir, faut s'accrocher, quoi. Et c'est parti. Donc, ouais, je pense que c'est assez féminin, ouais, apparemment. Là, pour le coup, c'est ce que disent les entraîneurs. C'est peut-être aussi ce qui nous permet de moins nous blesser, du coup, je sais pas. Mais Il y a vraiment une particularité là, à ce niveau-là, de la gestion, ouais, je pense. Mais parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on ne part pas comme des calus au départ, on a conscience peut-être de ce qui nous attend. Tout de suite, on dit oula. Alors, bon, mais sûrement. Voilà. C'est vraiment ça, moi. J'y vais doucement, mais sûrement.
Ouais, alors l'alternance marche-course, d'ailleurs j'en avais parlé dans l'épisode de la semaine dernière pour ceux qui ont écouté, c'est vraiment un truc, et moi j'ai lu Jeff Galloway il y a pas longtemps, là, son livre, où il prône ça, où il explique que de toute façon vous allez finir par doubler ceux qui sont épuisés à courir absolument, hein.
Oui, non, ça c'est quelque chose où. Mais après, c'est vrai que quand on me demande souvent comment je m'entraîne ou des choses comme ça, il y a eu des séances, par exemple, ça c'est grâce à des amis ultra-trailers. En fait, il faut dire aussi que très très vite, c'est l'univers que j'ai fréquenté. Donc, et je discutais. Par exemple, moi, j'ai fait des séances pour préparer mes gros ultras à une époque où vraiment j'enchaînais des grosses courses dans les déserts et tout. D'officiellement alterner course et marche, c'est-à-dire de partir, de courir 30 minutes, de marcher 30 minutes, de courir 30 minutes, de marcher 30 minutes. Et vraiment, c'est-à-dire je partais pour 2 heures, mais j'avais finalement 1 heure de marche officielle. Je l'ai beaucoup fait aussi sur tapis, parce qu'il se trouve que j'ai un tapis, moi je fais partie des rares qui apprécient le tapis. Et j'ai fait des séances comme ça, c'est-à-dire que vraiment d'entraînement. Et en fait, ce qui sauve, c'est que d'avoir appris à alterner la course et la marche permet aussi de sauver, parce que dans sa tête, on est capable, après avoir marché, de recourir. J'ai constaté sur beaucoup de courses, surtout donc sur les ultras, que des coureurs, à partir du moment où ils se mettaient à marcher, étaient plus capables de rebasculer. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils étaient passés en mode randonneur. En gros, et s'il n'y avait pas la barrière horaire au fait, c'est-à-dire qu'en gros, s'ils étaient larges, ils allaient terminer en randonneur. Point. Et à la rigueur, faire ce que font tout bon réflexe de Pavlov, ils voient la ligne d'arrivée à 300 mètres et là, ils se mettent à courir. On est d'accord. Non. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai travaillé pour vraiment être capable de continuer à avoir cette alternance course-marche. Ce qui fait que bah, du coup, on finit, mais on finit plus vite aussi, cette histoire. Et vraiment, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que je trouve qu'il faut le préparer officiellement, vraiment, à l'entraînement. Il faut l'inclure dans son entraînement pour que non seulement le corps s'y habitue à ce type d'effort un peu particulier, mais mentalement aussi. Mais vraiment, ça fonctionne très, très bien.
Mais je crois que c'est une acceptation aussi, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est que il faut accepter que pour bien courir, il faut marcher, que ça développe l'endurance aussi, fondamentale, etc. Ça économise le corps, il y a plein d'avantages. Mais c'est vrai, on en revient à ce prof de quatrième et à nos profs de gym, au club, etc. Faut pas, on marche pas, quoi.
C'est la honte totale de marcher. Non, non, mais c'est le problème. Alors que, oui, je comprends. Je suis pas là. Marcher sur un marathon, je reconnais. Je veux dire, même moi, qui pourtant fais de l'ultra, où je sais qu'on marche beaucoup et tout, je n'aime pas. D'ailleurs, sincèrement, ça a été. Je l'ai mal vécu. Je le vis pas forcément bien de marcher. Mais il y a une différence entre marcher à l'agonie pendant 4 km en se demandant ce qu'on fout là. Et décider qu'on va marcher officiellement, par exemple sur un marathon, c'était typique au moment des ravitaillements. C'est-à-dire que moi, officiellement, je commençais un peu à marcher avant mon ravitaillement parce que d'abord, je prenais mon gel, ma compote, mon machin. Donc, c'était la semaine d'avant. Je buvais, je ne suis pas capable de boire en courant sans me goûter. Et voilà, donc officiellement, c'est-à-dire pratiquement, ça me faisait mes 500 mètres de marche, pratiquement avant le ravito, après, et je redémarrais. Mais je le faisais finalement dès le cinquième, dès le dixième, au tout départ. Ça m'a permis de terminer des marathons et de les enchaîner. Voilà, là, je le vis bien. Je pense qu'il faut que ce soit, quand c'est structuré, quand c'est vraiment intégré, c'est comme en histoire de ma musique. Quand c'est officiellement une chanson et pas on commence à marcher puis on verra bien quand est-ce qu'on sera capable, là, évidemment, on sort du truc. Je pense que c'est ça. Il faut rester sur cette notion de chrono tout le temps. Là, on le vit mieux, et puis bah, voilà, on reste, je trouve que dans ce cas, on reste dans la notion de coureur. Je vais pas mentir, je ne comprends pas pour moi où est l'intérêt d'aller faire un marathon et de marcher les 20 derniers kilomètres. Ben non, ou alors c'est qu'on n'a pas le choix parce que, enfin, Et pour moi, c'est pas ça. Il faut être capable d'au moins d'alterner. Mais ça se prépare.
Ça se prépare, oui, je suis d'accord, ça se prépare. Et on le voit, moi j'ai fait, c'est vrai sur le trail où on marche quand même, parce que dès que ça monte, etc., on marche. Il y en a qui ont du mal à repartir, à redémarrer, à remettre la machine en route, hein.
Mais vraiment, et je pense que tu as vraiment le mental aussi qui fait qu'on a basculé. On a basculé. Alors en plus, je l'ai souvent vu, moi, sur ce comportement, justement, sur des courses type marathon des sables, qui sont quand même là un truc très particulier parce que. Pour une majorité des participants, il y a tout. Il y a la découverte d'une chaleur, il y a la découverte du terrain, c'est du sable, pas toujours que ça, il y a beaucoup de cailloux et tout. Mais il y a quand même une population, pour beaucoup, le marathon des sables sera le premier ultra. Le premier ultra tout pour tout. Donc il y a une peur panique quand même, un peu, on est dans la nouveauté, quoi, on ne sait pas. Et puis, comme les barrières horaires sont très larges, faites exprès, de toute façon, elles ont été conçues pour les marcheurs, pour accepter, pour accueillir des randonneurs. Donc, il y en a qui, officiellement, randonnent le marathon des sables. Et pour moi, ils ont tout mon respect parce que, randonner 250 bornes, pourquoi me se les taper, hein, dévaloriser la rando. Tout le monde n'est vraiment pas capable de le faire. Mais c'est vrai que j'ai souvent vu en discutant avec eux, j'avais des personnes qui étaient marathoniens, qui valaient moins de 3 heures largement au-dessus de moi. Mais qui, à partir du moment où il y avait une grosse difficulté, le gros paquet de dunes, genre au 15e kilomètre, basculait en mode rando et voilà. Et pouf, c'est vraiment ça. Et n'avait plus le courage de redémarrer. Et puis, bah, finissait et on encaissait chaque jour, mais je trouve ça dommage. Enfin, clairement, c'était ça. C'était le mental qui ne suivait plus, puisque le corps aurait pu suivre, en fait.
Ouais, c'est vrai que la course est très mentale, hein. Il y a beaucoup
Ah
de
oui,
choses mentales.
je pense que vraiment, surtout si on allonge les distances, le mental va à un moment va vraiment être indispensable. Quand vous ne faites que des 10 km, si on se blesse, si on fait une contracture, si on fait un machin, il vous reste 1 km. On serre les dents, puis on passe. On se fait mal, on machin, mais on sait que c'est 1 km. On va dire moins de 5 minutes, machin. Vous êtes capable, vous dites c'est bon. Quand vous vous blessez et qu'il vous reste 175 km, là, non, on n'encaisse plus du tout. Donc, le mental va faire la différence, quoi. Mais c'est des choses qu'on va expérimenter, qu'on va découvrir sur le terrain. Faut pas rêver. C'est pas des choses qu'on verra, qu'on va découvrir vraiment à l'entraînement. C'est pas vrai. Le côté cyclique de la douleur, faut l'avoir vécu, en fait, pour savoir que vraiment, il y a un caractère cyclique. Donc, qu'on peut avoir mal, vraiment, 80 ou centième kilomètre, j'en sais rien, mais et puis que tout d'un coup, au bout du centième kilomètre, cette douleur disparaît. Pourquoi? On ne sait pas. Et puis qu'elle va vous foutre la paix pendant 20 bornes. Et puis revenir. Enfin voilà, on a une espèce de truc mouvant, de sable mouvant dans lequel on est. Tant qu'on l'a pas vécu sur le terrain, on ne le sait pas, en fait. C'est vrai que moi, maintenant, avec le recul, moi, j'ai des abandons que je regrette. Parce qu'il y a eu des abandons qui étaient dus à un stade de la douleur, et je me suis dit, oh non, pas le courage, c'est bon, j'arrête. Aujourd'hui, avec le recul, j'en ai vraiment un en tête, c'est pour ça, j'en ai un en tête, que je regrette parce que je sais que si à ce moment-là, j'avais pris le temps de soigner mes pieds, j'avais accepté de perdre un quart d'heure, on va dire, ou 30 minutes, je serais reparti et j'aurais certainement fini la course. Mais j'avais pas assez de connaissances à ce moment-là, je ne me connaissais pas assez pour serrer les dents et prendre le temps. Donc, c'est tout ça, ça s'apprend avec l'expérience, hein. Faire des bris de carte.
Et oui, mais c'est ça qui est intéressant dans le parcours aussi, c'est que finalement, on dit, on part d'un quelqu'un qui n'est pas sportif, hein, qui avait jamais fait de sport et qui se fait de l'ultra, qui fait, alors j'ai envie de dire un peu le tour du monde en faisant des courses, mais on peut le dire comme ça, hein, vraiment,
Ah ben là, pour le coup, oui, je suis Greta me déteste.
hein.
Ouais, non, parce qu'en fait, moi, très vite, je pense que ce que j'ai découvert, c'est que moi, le running a été un prétexte au voyage, très clairement. Je ne m'en cache absolument pas. Moi, enfin, j'ai aucun jugement ni quoi que ce soit, c'est pas le problème. Mais je n'aurais pas pratiqué le running en étant, je fais 2 marathons par an, en gros, le marathon de Clermont, le marathon de Paris, et je construis toute mon année là-dessus, et je fais que ça, et j'y vais tous les ans. C'est pas mon truc. J'ai pas de problème avec les gens pour qui c'est le truc, mais c'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai besoin aussi de la découverte, c'est-à-dire que c'est un prétexte à aller découvrir des pays, des mentalités. J'adore discuter, de rencontrer, voir la façon dont les gens pratiquent ce sport au travers d'autres, enfin, d'autres cultures et tout. Plus les paysages, j'ai une chance de dingue. Enfin, c'est, le running est aussi un moyen de découvrir des paysages de façon complètement différente. Ça permet aussi d'aller à la, dans mon cas, ça a été de la rencontre de populations. Forcément, quand vous rentrez dans un village du Burkina Faso avec votre sac sur le dos en marchant, vous n'allez pas être accueilli du tout de la même façon par les populations que si vous débarquez avec votre gros 4x4 Toyota climatisé et votre canette de Coca. Faut quand même, voilà. Moi, ça m'a permis. Puis comme j'ai pas de, jamais d'objectif de chrono pour que ce soit à part juste terminer, prendre 5 minutes pour discuter avec quelqu'un dans un village, et, ça, je le fais au maximum. Bon, après, j'ai aussi traversé des déserts. Donc là, tu croises un peu moins de monde, même si tu croises toujours un mec avec deux chameaux qui part et qui repart de nulle part. Mais non, mais c'est vraiment ça qui m'intéressait. Enfin, qui, moi, me... C'est pour ça que du coup, je ne cours pas, hein, parce que là, quand on n'a plus le droit de bouger de la France. Non, mais c'est vrai que ça fait partie de, du truc.
Ouais. Et alors dans ma tête, moi, après je mélange, j'ai l'impression qu'il y avait un défi d'aller faire des marathons, des ultras un peu sur tous les continents, d'aller courir dans le Grand Nord et tout.
Ouais. Alors, je suis allée dans le Grand Sud, hein, je tiens à le dire. Je ne suis jamais allée dans le Grand Nord, encore. Mais non, en fait, après, il faut aussi se remettre dans le truc. C'est-à-dire que il y aura eu dans ma vie deux gros défis, en fait. Donc, quand j'ai commencé à courir des marathons, assez vite, donc j'ai lu un livre. Hein, moi aussi, je lis des livres, je ne sais pas que les écrire. J'ai lu un livre d'un Français, Philippe Payot, qui était celui... le premier Français à avoir couru un marathon sur les 7 continents. Donc, il racontait ça et j'ai lu. Et en fait, voilà, pareil, j'ai accroché avec le marathon de l'Antarctique. J'ai senti qu'il se passait un truc là-bas qui était autre chose que de la course à pied. Donc, mais le problème est très, très basique, c'est que tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et je ne l'ai pas. Donc, il faut trouver un sponsor. Donc, mon travail, c'est pendant des années, ça a été ça. Ça a été le financement de tout ça parce que les choses soient très claires. Je n'ai pas gagné au loto, hein, entre-temps, ni quoi que ce soit. Et, donc, tout a été, il a fallu construire. Ce qui fait qu'après, donc, l'histoire des 7 marathons, je voulais aller courir en Antarctique pour faire, voilà, être la première. Il fallait trouver des fonds. Donc, je me suis dit, pour avoir une accroche pour des sponsors, il faut raconter une histoire. 7 marathons, 7 continents. 80 jours, je suis née à Nantes, hommage à Jules Verne. Plaf. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est la notion de record ou quoi que ce soit, j'en avais rien à faire à l'époque. Il y avait pas de, c'était pas ça, c'était un titre. J'ai compris qu'il fallait une accroche pour pouvoir attirer. Voilà. Ces 80 jours, ça a été génial parce que ça. En fait, c'est connu dans le monde entier, Jules Verne. Donc, oui. Je vois. Au fin fond du Chili, ils savaient, 80 jours, ils savaient que c'était Jules Verne, donc ça leur plaisait, cette histoire. Et tout est venu comme ça, en fait. À chaque fois, j'ai jamais cherché à battre des records, j'ai cherché à financer mes trucs. Donc, il est souvent, hélas, plus facile de dire « je vais courir cette marathon en 80 jours » que de dire « vous pourriez me financer cette marathon sur 4 ans ?» Ensuite, ça fait moins vendeur. Donc, voilà. Il faut quand même avoir conscience de ça. Ce n'était pas une façon pour moi de jouer des championnes. Je ne suis absolument pas. Je sais où est ma place. Mais il me fallait un truc. Ce qui m'a fait, et donc en 2012, j'ai fait pareil, les 4 Deserts, c'était 4 courses dans les 4 grands déserts du monde, de 250 km, donc en autonomie. Cette année-là, en fait, j'ai fait 6 courses. J'ai eu une course préparatoire. J'ai eu le marathon des sables, donc ça a fait 6 courses comme ça. Et il y a eu l'UTMB, mais l'UTMB, c'est la version raccourcie dans la vallée. Donc ça ne compte pas, on va dire. Mon grand désespoir. Donc, c'était une année complètement dingue, mais qui s'est construite uniquement pour ça, pour trouver des fonds. Parce que c'est pareil. Si j'avais dit, financez-moi pendant 5 ans pour que je fasse tout ça, tu ne trouves pas. Voilà. Tout simplement.
Oui, mais c'est ce que tu racontes dans le livre aussi, c'est que c'est beaucoup plus... C'est difficile d'aller chercher des fonds, d'aller convaincre des gens qu'on va aller courir à l'autre bout du monde.
Ah non, mais pour moi, ça a été super dur. J'étais déjà pas capable d'aller demander une augmentation avant. Donc déjà, quand voilà, j'étais salariée comme tout le monde, j'avais un mal fou à aller demander 50 euros d'augmentation à mon patron parce que je ne me sentais pas légitime. Alors, aller demander à des gens que vous ne connaissez pas de financer vos loisirs, ben, ça, c'est violence. Donc, c'est vraiment. Il a fallu que je fasse appel à une confiance en moi que je n'avais pas. Donc, je la construis. Oui, vraiment, ça reste toujours la grande surprise pour moi. Des gens aient accepté de me financer. Parce que c'est quand même c'est des vrais budgets.
Ouais. Ce qui
Les quatre
est.
déserts 2012 de Nantes, juste le truc, les quatre déserts, c'était prévu en 2010 à la base. Mais c'est que j'ai pas trouvé. Donc il m'a fallu 2 ans de plus, en fait,
On peut dire combien ça représenterait de budget à peu près comme ça de une course si on veut faire le marathon des sables ou.
Alors j'avais fait le calcul. Pour moi, aujourd'hui, le marathon des sables, si vous n'avez. Tu peux pas t'en. C'est 5 000 euros? À peu près entre les inscriptions. Il faut être un minimum objectif sur une course comme le marathon des sables. Vous avez l'inscription, il y a le trajet pour aller à Orly, sauf si vous vivez dans les 5 km qui entourent Orly, vous allez aller à l'aéroport, avec des avions qui décollent à 6 h du matin, ça veut dire qu'il faut y dormir la veille. Vous rajoutez le matériel, le truc, acheter un duvet, un tapis, de la bouffe lyophilisée, un sac à dos qui ressemble à un sac à dos et tout. Il faut quand même être un minimum honnête, c'est difficile d'être à moins de 5 000. Aujourd'hui, moi, voilà, j'ai tout l'équipement, donc le truc équipement ne compte plus. Mais il y a un jour, il a fallu que je m'achète un duvet, j'ai essayé de trouver voilà, mon duvet vaut 205. À l'époque, valait 200 euros. Moi, je l'ai rentabilisé, mais aujourd'hui, j'ai regardé, voilà, il vaut presque 300, des choses comme ça. Enfin, c'est ces sommes-là, quoi, dont on parle. Donc, bah oui, non, c'est un vrai budget. Donc, quand vous faites. Donc, l'année 2012 m'a coûté très cher. Voilà, elle coûtait très cher. Donc, c'est pour ça que, bah, elle ne s'est pas faite en 2010 et qu'elle s'est faite en 2012. Parce que, de quoi financer tout ça?
Oui, mais
Donc,
j'ai une discussion que j'avais eue avec quelqu'un au club comme ça où son copain avait fait, était, ils avaient fait le raid, il avait fait le raid à la Réunion justement et il disait bon, on se l'est payé une fois, mais on se le paiera pas si souvent que ça parce que c'est un vrai vrai budget quoi. Hein.
un vrai budget, mais il y a un moment où il faut arrêter, quoi. C'est un vrai budget. Moi, après, c'est ce qu'on m'a dit. Pareil, on me dit toujours, Cécile, tu cours que dans les Alpes. Ouais, bah oui, je cours que dans les Alpes, parce que les Alpes, il se trouve que dans la famille, il y a un petit appart et que ça me fait au moins un pied-à-terre. S'il faut que j'aille dans les Pyrénées, bah, ça veut dire que ta course, ça te coûte ton dossard, tes 2 nuits d'hôtel ou de gîte ou de machin. Voilà, donc ça fait à chaque fois un budget. Enfin, je suis désolée, mais c'est pas une somme anodine. Donc, j'essaye aussi, quand c'est sur mes fonds propres, de limiter la casse. Je suis comme tout le monde. Donc, même si aujourd'hui j'ai la chance avec mon métier de journaliste de pouvoir bénéficier de dossards presse ou des choses comme ça, ce qui n'est pas valable sur toutes les courses, hein. Comme en plus, moi, je suis plutôt spécialisée sur les courses à l'étranger. Pour en avoir conscience, puis surtout, j'essaye de mettre en avant des petites organisations. Ils n'ont pas les moyens de nous inviter. Donc, je continue, mais je suis très contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait vite, finalement, parce que je suis quand même assez lucide. J'aurais aujourd'hui beaucoup de mal à trouver des sponsors. Ce serait beaucoup plus compliqué pour moi, parce que là, justement, hein, il y a le monde de la communication sportive a évolué, le monde des influenceurs, influenceuses est arrivé, nous a un peu fracasser tout ça, c'est pas un regret, hein, c'est un constat et j'ai pas de souci, mais j'en suis bien consciente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas retrouver les mêmes fonds. J'ai bien fait finalement de pas être raisonnable et de pas écouter mon coach.
Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis dans le livre que courir, c'était le truc le plus improbable, le plus délirant et improbable.
Vraiment, mais vraiment. De toute façon, ça fait beaucoup rire. Enfin, il faut en avoir conscience, quoi. Mais mes parents sont morts de rire. Enfin, ils en reviennent toujours pas. Personne ne comprend. Mais après, bon, je vais pas tomber dans Psycho Magazine, hein, c'est pas mon truc. Mais j'étale pas ça dans les bouquins parce que c'est pas le but. Mais oui, il y a des explications. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de ma vie privée. qui a fait que j'ai eu besoin de faire quelque chose de dingue. J'ai en fait, c'est, je peux, une des phrases qui a vraiment enclenché ça, c'est que il y avait plusieurs petites briques. Je pense que souvent c'est ça, enfin, quand on dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais il a fallu d'abord que le vase se remplisse. Et puis il y a eu pas mal de choses qui sont remplies, et puis un jour il y a eu une goutte d'eau. Et un ami que j'ai perdu par maladie, donc a récidivé, c'était un cancer, et quand il a récidivé, il m'a dit: c'est dingue, je vais mourir sans savoir si j'aurais pu être un bon père. Voilà. Parce qu'il était jeune. Et en fait, ça a été un des trucs qui a joué énormément. Je me souviens très bien de cette phrase, de me dire: mais voilà, te réveille pas avec un regret. En fait. Te réveille pas un matin en me disant: j'en sais rien. C'est Michel Larocque qui disait qu'elle s'est réveillée d'un accident après genre 6 mois de coma, ou je sais pas quoi, d'un accident de voiture grave, en disant, en se réveillant, en disant: mais j'ai failli mourir sans savoir si je serais une bonne actrice, en n'ayant jamais été actrice, en n'ayant jamais fait de théâtre, en ayant. Eh bien, c'est exactement la même chose, je crois. Philippe n'envisageait pas d'être père. Enfin, il était jeune, et puis c'était pas un projet de vie. Puis il y a eu un jour où c'est dit: merde, j'ai peut-être passé à côté de ça. Donc moi, j'ai eu ça aussi. Le côté, j'en sais rien. Si ça se trouve, je suis sportive. Je suis pas aussi sportive que ça, en fait. Mais je pense que t'es à un moment, tu peux avoir un petit truc. Et que la petite étincelle qui fait que tu bascules, quoi.
Et mais, tu le dis maintenant, hein, donc ton métier officiellement maintenant, c'est journaliste, écrivain, auteur. Qu'est-ce que finalement comment tu te présentes, hein?
Ah bah en fait, nous, bon, c'est un peu compliqué parce que justement, j'en sais. J'ai une activité, je suis plutôt rédactrice, on va dire, voilà. Donc j'écris des articles, des livres, je fais aussi d'autres trucs à côté de rédaction qui n'ont rien à voir avec la course à pied, qui sont beaucoup plus ennuyeux, qui n'intéresseraient personne, hein, qui me fait le plus vivre d'ailleurs, pour dire des choses, c'est pas les piges, qui sont des choses, voilà, qui rapportent beaucoup d'argent, quand même en avoir confiance. Non, ce que j'aime, d'ailleurs je le dis souvent, je suis une raconteuse. Je suis une raconteuse d'histoire. Donc, je ne suis pas à l'aise avec des articles. Je ne suis pas une vraie journaliste, pour moi. Je le reconnais. Parce qu'un vrai journaliste sera capable de vous écrire autant un article sur, justement, un truc un plan d'entraînement, des choses très. Moi, ça me gonfle, ça m'intéresse. Je suis vraiment une raconteuse d'histoire. J'aime bien, et c'est la transmission. En fait, ce que je veux. Ce que je rêve, c'est quand quelqu'un me dit: voilà, j'ai lu ton article et je suis allée sur cette course. Parce que tu m'as donné le sentiment que j'en étais capable. Ça, c'est pour moi la plus. C'est ça ce que je veux. Donc, je suis vraiment dans une notion de transmission, d'ouvrir les portes pour les gens, pour leur dire: mais allez-y, voilà comment ça se passe, voilà comment est cette course, d'ouvrir un peu les horizons, quoi. Je suis contente parce que ça m'arrive. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point ça compte, parce que je reçois régulièrement des messages, hein, de personnes qui me disent: bah, grâce à vous, je cours, des choses comme ça. Je l'ai vécu sur l'OCC. Quand même. Donc à Chartres, il pleuvait, il était un temps dégueu. Je me demandais ce que je foutais là, les pieds dans la bouillasse avec ma veste imperméable et ma capuche là. En me disant: mais pourquoi tu t'imposes ce truc-là? Et je suis doublée par un monsieur qui me reconnaît, je ne sais toujours pas comment, ça restera le grand mystère de ma vie, et qui m'arrête et qui me dit: voilà, qui me dit: mais vous êtes bien Cécile Bertin? J'ai dit: oui, bah oui. Il me dit: si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Parce que vous m'avez, vos histoires m'ont donné le sentiment que j'en étais capable. Et puis pouf, il a filé et il a dû me foutre 45 minutes dans l'œil parce qu'il courait vachement bien. Donc, je suis très content. Mais voilà, c'est ce genre de choses. C'est un truc unique à vivre, quoi. Je crois que les gens ne réalisent pas à quel point c'est waouh! Non, mais c'est vrai, c'est le côté qui change une vie, change l'humanité. Oui. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé. Chez les femmes, je l'ai eu, mais donc le fait de découvrir que même voilà, chez les hommes aussi, c'est chouette. Hein. C'est des bons moments.
Oui, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en documentant ce parcours de coureuse, enfin non coureuse, hein, Coureuse d'ultra qui fait le tour du monde, les baskets aux pieds, qui raconte ses aventures. Finalement, ça peut déclencher effectivement des gens se disent bah, j'en suis capable, etc. Et c'est intéressant parce que j'avais noté un bout de l'intro qui dit si vous deviez retenir quelque chose, qu'une chose de ces aventures, que si sa fille nulle en sport comme moi parvient à accomplir des trucs dingues, vous devriez sans problème réussir à faire le tour du parc ou du lac d'à côté.
Oui, mais c'est ça, c'est vraiment ça ce que j'essaye. C'est-à-dire que, déjà, parce que je pense qu'en racontant toutes mes galères et tout, je remets bien aussi les choses à leur place. Et à aucun moment, mes récits ont pour but d'encourager les gens à aller courir 250 bornes avec 3 litres de flotte dans le dos. C'est pas ça. C'est vraiment de dire, imaginez, je veux dire, c'est ça, c'est une fille comme moi qui a aucun profil sportif, qui n'a vraiment rien. Voilà. Je pense pas avoir des jeunes non plus et tout, et réussi à faire ça, mais vous êtes capable de choses que vous ne soupçonnez pas. En fait, je crois que c'est ça, c'est surtout il faut être capable de se dire je suis peut-être capable de faire des choses que je ne soupçonne pas. Pour moi, finalement, la Parisienne, le marathon de Paris et tout, ça m'a conduit, oui, dans les déserts, ça m'a aussi conduit au sommet du Mont Blanc. Ça n'a rien à voir, c'est pas du running, c'est pas machin. C'est quelque chose que je ne me serais jamais autorisé s'il n'y avait pas eu le running. Alors que ça, pour le coup, c'était un rêve. Un rêve dont j'avais conscience à 20 ans. Ça, oui, c'était un rêve. Je n'ai pas d'aller faire des brefs, mais le Mont Blanc faisait partie d'un de mes rêves. Je ne me le serais jamais autorisé. C'est évident. Jamais. Et c'est grâce à finalement, à la course à pied et à des trucs qui n'ont rien à voir avec l'alpinisme, que je me le suis autorisé. Donc, il me reste un ou deux trucs comme ça, là, dans un coin de la tête. Donc, ouais, ça fait partie de ça. Donc, c'est ce que j'essaye de transmettre. Oser, ça peut être n'importe quoi, hein, mais oser, quoi.
C'est d'ailleurs la conclusion qui est intéressante hein, du livre, hein, c'est sur l'impact sur la confiance. Hein, alors, il y a une petite phrase, je l'avais notée, mais je l'ai perdue, mais je la remettrai dans le blog parce qu'elle dit, elle résume bien finalement le parcours hein, sur la confiance apportée grâce finalement à la course.
Et puis, je pense qu'il y a ça, parce que moi, c'est une évidence. Ça m'a ouvert des trucs. C'est pareil dans le fait, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai fait le tour du monde en courant. Pas le tour du monde en courant, c'est une image, hein, on est bien d'accord. Mais je ne suis pas Serge Gérard, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais non, en fait, il y a aussi des choses, c'est-à-dire le fait d'avoir envie d'aller courir. Je me suis aussi retrouvée à voyager seule, parce que bah, on n'a pas le choix. Donc, à prendre l'avion, à partir dans des pays dont je parle absolument pas la langue, à me débrouiller, je me souviendrai toujours, c'est la première réflexion que je me suis faite, c'était au fin fond de la Gobie. Je me suis dit, mais où sent finalement, voilà, tu as réussi à partir seule, au fin fond d'un truc, donc tu parles, alors là, vraiment pas la langue et tu comprends absolument rien. D'abord, il n'y a pas qu'une langue, surtout dans ce pays, dans cette région. Donc, et puis, ben, je m'en suis sortie. Et puis j'ai réussi à manger, puis j'ai réussi à aller de l'aéroport à mon hôtel. Et finalement, ça m'a ouvert des choses d'accepter de voyager seule, de prendre une confiance sur plein d'autres choses à côté, en fait, qui n'ont rien à voir avec le running. De plus oser aller demander. Donc, il y a des livres aujourd'hui qui sont sortis parce que là, j'étais demandeuse. C'est moi qui suis proactive, qui construis le truc et qui cherche maintenant. Donc, c'est une vraie confiance, oui. Je pense qu'il faut. Il faut en avoir conscience. J'ai essayé aussi de bien démontrer en racontant mes galères, mon côté Pierre Richard et tout, mes échecs, parce que je me suis plantée. J'ai eu des échecs, hein. J'ai abandonné. Voilà, j'ai des courses qui me résistent, tout ce qu'on veut. On peut aussi surmonter ça. Il y a des choses plus graves. Ben voilà, on peut se planter.
Alors, on parle des échecs, mais moi, il y a un truc qui m'a fait rire, parce que c'est quelque chose dont je parle souvent, moi. Je dis, un truc, c'est que je gagnerai jamais de course. Et là, j'ouvre le livre, et il y a un marathon de gagné, à la grande surprise. Mais ça, il faut vraiment le raconter, parce que c'est quand même, je trouve, c'est le genre de truc qui paraît improbable.
Ah mais complètement, mais qu'il l'est complètement. Enfin, c'est-à-dire que, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont cette vidéo en tête d'un truc, ça va être du roller de vitesse, je sais pas quoi, sur une piste. Mais ça va être au JO, hein, je sais plus.
Oui,
C'est
où tout le monde
2019.
tombe.
Tout le monde tombe et le dernier qui limite, c'est pas patiné, gagne. Et ben voilà, ça m'est arrivé sur marathon. Donc, c'était. vraiment improbable. De l'époque, mais c'était en plus c'était mon troisième marathon. C'est un truc de fou. C'est mon troisième marathon. C'est un marathon juste à côté de chez moi, auquel je participe parce que c'est le marathon de mon club. Donc déjà, le principe, c'est qu'on s'inscrit, même si on par principe. Bon, j'avais en tête de le faire. Je faisais une sortie longue. C'était un marathon. C'était trois boucles, trois fois les mêmes boucles. Un truc un peu chiant pour dire les choses. J'avais prévu de faire deux boucles et de rentrer à la maison pour être à l'heure pour préparer le déjeuner parce qu'on avait tonton et tata qui venaient déjeuner et il fallait lancer le barbecue. Mais tout est vrai, hein. C'est un truc de fou. Et puis bah voilà, on était très peu de femmes au départ, hein, faut dire les choses. Et puis bah quand j'ai entamé, j'allais finir ma deuxième boucle, bon, on m'a appris qu'il restait qu'une femme devant moi, donc de toute façon j'étais podium. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, je veux dire, il y a un moment, ben voilà, fait le barbecue, tant pis, hein. J'avais pas de téléphone portable, j'avais pu prévenir mon mari qui se demandait ce qui m'était arrivé, il m'envisageait aux urgences, pas du tout, hein, sur un podium de marathon, hein, il m'envisageait une crise cardiaque aux urgences de l'hôpital. Et puis voilà, et puis j'ai doublé la première, qui était blessée évidemment, si j'ai doublé, c'est qu'il y avait un problème, hein. C'est pas tout d'un coup. Pris un truc à Usain Bolt, hein. Et voilà, et j'ai gagné, et c'est un souvenir hallucinant de rigolade, parce que voilà, exactement comme dans ce truc type au JO, où le concours de circonstances fait qu'il n'y a plus que vous. Alors maintenant, je peux vous dire que là, la coupe et le truc, la médaille, c'est chez moi, hein. Là, elle n'était pas dans un tiroir, dans une boîte, hein, parce que celui-là, je m'en rappellerai toujours. Je suis arrivée, je suis allée à la voiture chercher mon téléphone portable. Chérie, j'ai gagné le marathon. Ça enfin, on voit bien. Pas drôle, rentre. Suis revenue pour la remise des prix et tout. Enfin, c'est inoubliable. Donc, comme quoi, c'est possible.
Ouais, et comment on voit la famille justement, parce qu'on parle de mari et des quatre enfants, comment ils vivent ça? Parce qu'en plus il y a une anecdote hein, là-dessus sur une histoire de par rapport, ça devait être au premier livre que tu avais écrit, j'imagine hein, que.
Ouais, de mon fils, ouais. C'est mon fils aîné, ouais, qui, ça, je peux la raconter parce qu'à l'oral, je pense que c'est encore plus rigolo. Donc, le fameux Courir au féminin, le premier livre. Mon fils en vacances, mon fils aîné, se fait des copains sur la plage. Et puis, bah, voilà, un copain l'invite, on vient, on fait un barbecue à la maison. Et les jeunes discutent, et puis il entend les deux mamans c'est un gros groupe, qui discutent, et l'une qui dit, oui, j'ai commencé à courir. Il paraît que tu as commencé à courir. Ah oui, j'ai commencé à courir. J'ai acheté un livre super sympa. Si tu veux, je te le prête. Non, mais tu verrais, c'est une histoire de dingue. C'est une nana, quatre enfants, nulle au sport comme nous au collège et tout. Et elle a fait des trucs de fou et tout. Et là, mon fils à l'oreille, qui tend l'oreille, il dit, mais attendez, vous parlez de quoi là? Ce serait pas Cécile Bertin par hasard, parce que les gamins ne sont pas présentés avec leur nom de famille, quoi. C'était, tiens, je te présente Alex, ça n'a pas été plus loin. Et là, la nana va sortir son bouquin, et puis c'est fait courir au féminin. Et elle me dit, mais c'est ma mère. Bon. Et Alex est rentré à la maison. Elle m'a dit, maman, tu devineras jamais quoi. Il y a des gens qui ne te connaissent pas qui ont acheté ton livre. Et sa mère, de le scotcher littéralement. En fait, mon livre n'était pas acheté uniquement par ma mère, ma soeur, mon cousin. Ça m'a fait rire parce que ça prouve à quel point. Non, vraiment, ça les intéresse pas. Alors, je fais pas du tout. J'ai pas de fan club à la maison. C'est l'activité de maman. Il faut aussi avoir conscience quand même que très vite, comme c'est un peu devenu mon travail, finalement, bah, c'est un travail bizarre, mais c'est un travail. Donc, les enfants s'extasient pas forcément parce que papa est comptable. Bon, bah, ils sont un peu dans le même niveau. J'ai pas de soutien quand je le dis, mais c'est vrai. Généralement, quand je rentre d'un gros ultra à l'étranger, on me demande pas ce que j'ai fait, on me demande quand est-ce que je lance les lessives parce que c'est pas ma semaine. Voilà. Ils viennent pas sur les courses, c'est très très rare. C'était exceptionnel qu'ils viennent. Voilà, c'est pas un truc, c'est mon truc à moi. Et après, je cherche pas forcément à ce que ça devienne un truc familial. C'est mon truc à moi. Donc, bon, ça peut. Voilà. C'est mon petit délire à moi. Je vois pas je vois pas le caractère obligatoire qu'il faut absolument que ce soit partagé par toute la famille. Si j'avais eu un conjoint qui courait, ça aurait été très sympa. Il peut pas, pour d'autres, enfin, des raisons qui n'ont rien à voir. Donc, c'est pas un truc qu'on peut partager. Bon, voilà, il fait du planeur, ça m'intéresse absolument pas. Je laisse en faire et voilà, chacun son truc, quoi. Mais c'est vrai que non, j'ai pas de fan club, hein. En mode pom-pom girl, avec des panneaux, vas-y maman, non, du tout. Du tout, du tout. Mais c'est très bien comme ça.
Bon, et eh ben c'était super intéressant. Si je dois quand même, je peux pas terminer cet épisode. On a parlé de la marche, de la course, de comment on commence, etc. Alors, il y a d'autres bouquins depuis ce premier bouquin 2009. Hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres livres qui avaient été écrits sur comment on se met à courir, etc. Mais moi, je mettrai tout le lien dans les notes de l'épisode. Mais finalement, quelqu'un qui se dit là, j'ai envie de courir. En plus, les beaux jours arrivent, même si aujourd'hui on a un petit peu de doute parce que chez nous, il fait quand même pas très chaud. On se dit, j'ai envie de courir. Quel serait le conseil? Parce que dans le livre, tu racontes l'histoire de je suis allé acheter des chaussures, j'ai rien compris à ce que me racontait le vendeur, des trucs dans le genre là. Mais quel est finalement le conseil que tu dis à quelqu'un qui voudrait se mettre à courir maintenant?
Ben, en fait, que c'est pas parce que le running et soi-disant que la course à pied est quelque chose de naturel chez l'homme que cette pratique sportive en tant que sport est naturelle. Donc ça va demander du temps. Donc que ça va demander d'avoir de la patience, d'organiser ça. Ça peut demander. Ben, je compare ça. C'est quand même le running est quand même le seul sport où tout le monde trouve naturel de y aller sans rien, sans conseil, sans suivre de cours. Tu te lances pas sur le ski, enfin, j'ose espérer, sans être passé un minimum par quelques cours, ski nautique pareil, la voile, ça s'apprend jusqu'à preuve du contraire. Et tu traverses pas l'Atlantique en n'ayant jamais foutu les pieds sur un cadenas. Enfin, pourquoi le running serait différent? Donc vraiment, pour moi, le principal, c'est d'accepter que c'est un sport qui va demander de l'entraînement, de la régularité, qu'il y aura des moments difficiles, des moments plus faciles, mais que ça se construit. Faut être un peu plus patient. Faut pas faire toutes les bêtises que j'ai faites. Je suis pas un exemple à suivre. Mais vraiment, et qu'il faut pas hésiter à aller taper à la porte des clubs et des choses comme ça où il y a des professionnels qui sont là pour vous encadrer, quoi. Vraiment, enfin, c'est le truc que je veux vraiment faire passer. C'est un vrai sport. Respectez-le, les copettes.
Oui, ça s'apprend. Il y a des trucs qui s'apprennent, c'est vrai et tout. Et il y a un
Oui.
épisode qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. J'avais fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Altra, avec Sherwin de chez Altra, qui on a expliqué l'histoire de la foulée naturelle, comment on pouvait faire évoluer sa foulée. Et c'est vrai qu'on en parlait, on disait, il y a des trucs qui, finalement, ça vaut le coup de le travailler, hein, que ça peut se travailler, qu'il faut apprendre à faire les choses.
Mais vraiment, puis alors c'est encore plus valable quand, comme moi, vous partez après sur le trail. Je veux dire, on apprend à descendre, on apprend à monter efficacement et tout ça. Il faut accepter que c'est un sport, voilà, vraiment. Et qu'il se respecte en tant que tel. Donc, qu'on est capable que ce sera vraiment, que c'est super, que même si on passe sa vie à courir à 8h30 à l'heure ou 8 à l'heure, et bien c'est pas grave, c'est pas le problème. Il n'y a pas une question forcément de notion de vitesse. On n'est pas forcément dans l'idée de gagner en vitesse. Il faut qu'on gagne en aisance. Et ce gain en aisance, il sera possible que si on le travaille. Donc, ben voilà, faut sortir pas son tableau Excel forcément, mais au moins son agenda, et puis programmer, et s'imposer un peu des choses, quoi. Estimer, ouais, le renforcement musculaire, c'est loin d'être
Ah, il y a des
Oh.
choses.
Mais c'est loin d'être bête. C'est loin d'être un peu utile. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, mais ouais, vraiment, faut pas hésiter, quoi, à faire ça. Ouais, parce que vraiment, après, le plaisir, en fait, il est là. Quand on a gagné en aisance, quand on a passé des moments difficiles, c'est vrai que c'est quand même un grand kiff après d'aller courir une heure dans les.
Ouais, ça me fait penser à une vidéo et j'en parle. Et je l'ai partagé dans le groupe Facebook sur un mouvement slow runner où c'est un japonais, là, l'auteur, tu dois voir, qui, il y a vidéo, c'est, il y a une fille qui court à toute vitesse et qui est crevée, et puis lui qui court tout doucement, il demande, vous prenez du plaisir à courir? Elle dit non. Et,
C'est-à-dire que, voilà, moi, il faut avoir conscience, c'est ça, de la notion de vitesse, de sa propre vitesse. En fait, il y a aussi une chose, c'était un médecin du sport qui me l'avait dit. On a une cylindrée, point. Donc, une deux chevaux n'est pas une Ferrari, c'est très chiant, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Donc, moi, j'ai compris que j'avais des capacités, mes forces venaient destinées plus à l'ultra. J'ai compris que sur les 10 kilomètres, je ne suis pas douée. Je viens à peine de démarrer, je suis un vrai diesel, donc c'est pénible. Je ne vais pas m'entêter à faire que des 10 bornes, alors ce n'est pas mon truc. Il faut savoir dans quoi, voilà, il faut travailler, voir dans quoi on est doué et développer après les choses dans lesquelles on est naturellement doué. Ce sera différent, puis arrêter de surtout se comparer aux voisins
Ouais.
aussi.
Et de se rappeler la conclusion de ton livre, c'est la dernière phrase, marche après marche, vous pouvez y arriver, ne perdez jamais cette vue. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? Et je trouve que c'est vraiment une super conclusion, parce qu'en plus, par rapport à la première phrase que j'avais lue, hein, on a vraiment le parcours, hein, de se dire c'est possible.
Ah oui, non, mais c'est ça, parce que je me marre, mais je rêve que d'une chose, c'est de retrouver mon prof de sport de quatrième, hein, quand même.
C'était la question que j'avais posée, est-ce que.
Non, mais je suis pas suffisamment rancunière pour me dire, je vais aller explorer dans copain d'avant, je sais pas quoi, pour aller trouver le monde, ce salopard qui m'a gâché. Non, mais je peux, voilà. Mais ouais, ça me fait vraiment rire. Enfin, c'est vrai que. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont connue à cette époque-là qui rigolent beaucoup. Je n'aurais jamais imaginé ça. Pas le côté, justement, aventure, partir, être capable de partir en Antarctique. Voilà. Ça les surprend. Ceux qui me connaissent vraiment de l'époque, moins. Mais alors, le côté pour le sport, ça les fait toujours hurler de rire. Ça, je me confirme. Donc, ouais, non, j'en suis. Mais un jour, peut-être. Quand même, je chercherai ce monsieur.
Et alors pour finir, on va dire un dernier mot parce que c'est une année qui est un peu particulière sur les courses. Hein. Je sais pas si tu avais des objectifs, si tu t'es fixé de dire je vais faire telle ou telle chose cette année. J'ai vu des photos j'avais vu des mentions de l'UTMB, des choses comme ça, des trucs comme ça, mais.
J'ai pas de dossard pour l'UTMB, il me manquait un point. Mais j'aurais eu le point, ouais, ça c'est clair que oui, bon, j'aurais tenté. C'est toujours l'année de mes 50 ans. Donc oui, j'avais quand même en tête de faire de cette année, pas la dernière année, mais presque, parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres projets en tête. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que ça m'a donné envie de faire d'autres choses, donner une confiance en moi qui m'a ouvert d'autres horizons. Donc j'avais en tête d'autres projets et je voulais fermer la porte un peu de ce... Donc j'avais construit mon année. Avec plein de choses qui sont totalement tombées à l'eau. Donc, là, voilà. Est-ce que j'y renonce totalement? Est-ce que je l'ai fait l'année de mes 51 ans? Est-ce que j'en suis là. J'en suis dans le doute complet parce que y a des courses qui ont été où on m'a reporté sur le Sarre tout de suite. On m'a proposé un report pour l'année prochaine et tout. C'était des choses à l'étranger. J'ai perdu de l'argent hein, cette année aussi parce que moi j'avais des choses qui étaient programmées avec billets d'avion et tout. Donc, il y a une perte financière aussi sèche. Donc, les organisateurs, ils sont pour rien. Enfin, je ne reproche rien. Hein. Qui pouvait imaginer une seule seconde, début février, qu'on en serait là, quoi, où on en est aujourd'hui? Donc, je subis comme tout le monde, autant les organisateurs que les participants aux courses. Mais du coup, l'année 2020 est dans le flou complet. Dans le flou complet, complet. Je suis en manque de désert, ça, c'est sûr. Donc, ça va devenir problématique, mais j'attends encore un petit peu pour voir si j'arrive à trouver quelque chose, parce que là, je ne pourrais pas me permettre financièrement de me relancer, voilà, de me réinvestir et que ça tombe à l'eau. À un moment, il faut quand même être raisonnable. Ouais, non, c'est une année bizarre. Hein. Et c'est juste une année bizarre, surtout pour moi, puisque voilà, c'était vraiment dans l'idée que c'était une dernière année pour en gros me faire les un ou deux rêves qui me restaient,
Oui.
là, dans le coin de la tête, genre aller courir à Petra en Jordanie, pour dire des choses. Donc, plus de Petra, plus de Jordanie. Et je voulais vraiment terminer pour mon désert. Ça devait être mon dernier désert. Donc, est-ce que je le maintiens? Est-ce que du coup, tant pis, ce ne sera pas avec un dossard et puis ce sera l'année prochaine dans un autre projet. Et voilà, je suis dans le flou complet. On verra. Mais je pense qu'on est pas mal comme ça. Hein.
Oui, on suivra ses aventures, hein, en tout cas, alors, on peut te suivre où? Parce que quand on veut suivre les aventures, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient maintenant suivre les aventures.
Alors, de toute façon, il y a un support blog, donc il y a Run Fit and Fun qui est un blog qui est un espèce de mixte un peu improbable où je mets énormément d'informations puisque je reste, donc mon côté journaliste fait que je reçois beaucoup de communiqués et tout, donc il y a plein d'infos, voilà, normales, d'informations pures, Il y a des récits, pas mal de récits. Bah justement, tous mes 7 marathons, 7 continents, ils sont dessus, par exemple. Je publie. Très souvent, en fait, le principe est assez simple. Je publie un article sur une course dans un magazine où je suis forcément limitée par le nombre de pages. Et la version intégrale est sur le blog. La version intégrale avec tous les conseils de voyage, des choses comme ça, des débriefs très concrets, parce que c'est souvent ce qu'on me pose comme question. Ça, on le retrouve. Et puis après, bah, j'ai les réseaux sociaux classiques, hein, voilà, Instagram. J'essaye de développer pas mal Instagram parce que c'est un support que j'aime bien, en fait, aussi. Finalement, je trouve moins agressif aujourd'hui que ce qui est devenu Facebook. Mais pas encore Twitter, mais commence à s'en rapprocher. Donc, j'aime bien Insta, mais on trouve à mon nom, hein, Cécile Bertin. Il n'y a que moi, c'est pas vrai, mais on trouve absolument. Puis après, oui, dans tous les magazines, je suis pigiste, hein, donc je travaille pour toute la presse running en fonction des sujets que je leur propose. Puis j'espère dans toutes les bonnes librairies de France pour la suite des aventures.
Oui, parce que quand on regarde sur le site, hein, notamment, il y a la boutique où on voit la librairie avec les différents livres qui ont été écrits, donc il y en a quelques-uns quand même, hein,
Oui, donc il y en a quelques-uns. Ouais, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est un vrai plaisir. On m'a demandé la suite hein, de Cours Toujours. On m'a dit quand est-ce qu'on a le volume 2? Parce que c'est pareil, c'est ça, c'est un exercice de style très frustrant. Hein, vous avez un nombre de pages et le droit à tant de chroniques. Donc il a fallu faire le tri dans les chroniques.
Ouais.
Mais comme ça parle surtout beaucoup de mes débuts, je me dis dans l'absolu, une suite de Cours Toujours avec les aventures, il y en a eu d'autres. Hein.
Ah, mais moi je recommande vraiment la lecture de Cours Toujours. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a j'ai un copain un jour qui m'a envoyé la photo du livre. Et il m'a dit, tu devrais lire ce livre. Il m'a dit, tu devrais lire ce livre et t'aurais pu l'écrire. Il m'a dit, j'ai dit, non, parce que, j'ai dit, ça va te faire rigoler, mais c'est mon livre de chemin en ce moment. Je l'avais commencé 2 jours avant quand il m'a envoyé ça. Et j'en étais, alors je lisais un truc sur la Chine et tout. Je lui ai dit, non, non, je peux pas écrire un truc. Moi, je suis pas allé au Chili ou aller à droite à gauche. Mais c'est vrai que en revoyant des trucs, j'ai dit, effectivement, par contre, je pense que tous ceux qui se sont mis à courir sur le tard, notamment, vont se reconnaître énormément dans beaucoup
Et
d'anecdotes
ça,
qui sont racontées.
voilà, c'est ça le plus important en fait dans l'histoire, quoi. J'ai un autre livre aussi qui est Marathon des Sables et autre de délire sablonneux là qui est sorti, qui est un guide en fait pour les ultras, donc pour ceux que ça fait rêver, en sachant que c'est des récits et puis pas mal de conseils pour rendre accessible, c'est pareil, ce genre de course. En fait, j'ai plusieurs fois eu, c'est ça, des messages de copains qui m'ont dit c'est cool ce que tu as raconté. Parce que j'ai pu le faire lire à ma femme, à mon frère, à mon cousin, à ma mère. Parce que je n'arrive pas, moi, forcément, à mettre des mots sur ce qu'on vit. C'est encore plus valable sur des courses un peu extrêmes. Et dit au moins, voilà, tu mets des mots sur ce qu'on vit. Et c'est chouette parce que comme ça, on peut le transmettre un peu aussi autour de nous. Ça, c'est une belle récompense aussi pour moi, pour mon travail, de voir que je peux être une porte-parole. Donc, je transmets. Je suis un maillon de transmission.
Voilà, et ben c'est un chouette maillon de transmission, et je vous invite tous à aller les lire. Alors, entre les livres, lire les différents écrits, effectivement, parce qu'on pourrait dire on retrouve très 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 souvent les aventures à droite à gauche. Le plus rapide, c'est aussi Instagram. Moi, je mettrai tous les liens. Donc, Cécile Bertin Run Fit Fun, hein, tout attaché, bien sûr, sur Instagram. Et si vous, je mettrai l'adresse du site et on a tous les liens pour tout retrouver, etc. On peut suivre toutes les aventures avec les photos, avec plein de choses, hein. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Puis c'est vrai que le site est très très rempli. Il y a énormément d'informations sur le site.
Oui, bah oui, puis j'ai eu le temps pendant le confinement, de toute façon, de le remplir. Donc oui, en fait, je veux vraiment en faire, je pense que c'est ça, l'évolution aussi, c'est d'avoir mon propre support d'information, en fait.
D'accord.
Je pense que c'est aussi une des évolutions aujourd'hui, c'est de travailler de plus en plus, finalement, pour moi, entre guillemets. Donc je vais en faire vraiment un support. D'ailleurs, j'ai eu mon premier message il n'y a pas longtemps en me disant, est-ce que je peux le trouver en kiosque? Ah! Ah, je me suis dit, ouh!
Ah.
Ah, ça y est, ça avance cette histoire.
Ça avance. Eh ben, je souhaite que tous ces projets avancent, autant les projets sportifs que les projets entrepreneuriaux, hein, parce qu'on reste dans ce cadre-là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps, pour ces histoires, pour le partage, hein, je pense qu'il y a vraiment, je vous encourage tous à aller lire les livres, à aller suivre les aventures, parce qu'il y a des... C'est un sacré parcours, hein. Vraiment, c'est un chouette parcours. Et je suis super content de t'avoir eu pour le 50e épisode, parce que ça symbolise aussi un petit peu le parcours que certains suivent, hein, dans ceux qui écoutent le podcast, dans ce que moi j'essaye aussi de partager, hein, dans les aventures. Alors moi, je passe pas les frontières de la France pour l'instant, mais et je dépasserai pas les 42 km. J'avais d'ailleurs dit que le marathon de Paris serait mon seul marathon, que j'en ferai pas d'autres. Et puis après, je me suis inscrit au marathon d'Albi. Voilà, ça, on ne sait pas. On dit on en fait qu'un, puis on ne sait pas. Une fois qu'on a goûté.
Et voilà. Non, mais c'est ce que je dis. Hein. Quand on a mis une basket, le problème, c'est que quelquefois, le reste suit quand même. Hein.
Voilà. Donc, on verra où nous conduisent nos aventures. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous, à partager ces histoires, à partager ces conseils. Et je mettrai bien sûr tous les liens dans la description de l'épisode pour retrouver toutes ces aventures et pouvoir suivre les futures aventures et savoir justement quel sera le nouveau défi qui va arriver à voir la suite, que ce soit dans des bouquins ou que ce soit le basket au pied, etc. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Merci.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.